BW. Droits et libertés.
Cette semaine charnière entre deux années est l'occasion de revenir sur une belle rencontre de 2019, celle avec Aminatou Haidar, co-lauréate du prix Right Livelihood, le prix Nobel alternatif, pour sa lutte en faveur des droits de son peuple, le peuple sahraoui. Aminatou Haidar a connu la répression la plus féroce, l'emprisonnement à l'isolement, dans le noir pendant plusieurs années, la torture aussi, mais elle continue inlassablement son combat dans l'espoir de voir un jour les habitants du Sahara occidental pouvoir jouir de leur droit à l'autodétermination. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Aminatou Haidar, bonjour.
Bonjour Madame Sandrine.
Alors vous êtes la présidente du CODESA, le collectif des Sahraouis défenseurs des droits de l'homme, et vous êtes vous-même une sorte d'incarnation de la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et à la liberté. À ce titre, vous venez de recevoir le prix Right Livelihood, ce qu'on appelle aussi le prix Nobel alternatif. Est-ce que vous pensez que ce genre de distinction, ça peut aider qu'on parle de votre cause et de votre peuple peut-être quand même ?
Oui, ce genre de prix, d'ailleurs, c'est une reconnaissance internationale de la justesse de Malit Pacifique et de la cause et la lutte de mon peuple, le peuple sahraoui. Et surtout, ça va m'ouvrir plusieurs portes pour faire lumière sur la situation grave et alarmante dont se trouve mon peuple.
Alors cet engagement que vous avez, c'est un engagement dans toute votre chair, tout votre corps aussi, puisque vous avez aussi fait plusieurs fois des grèves de la faim pour protester contre le traitement qu'on vous réservait, qu'on réservait aux Sahraouis en général. Est-ce que vous n'avez jamais eu des moments de doute ?
Non, j'ai jamais douté. Au contraire, jour après jour, je deviens plus forte et plus déterminée. Et ici, je dois rappeler la grève de la faim que j'ai entamée en 2009, que j'étais toute seule, et j'ai pu vraiment mobiliser la conscience internationale. J'ai pu aussi sensibiliser sur la question des violations des droits de l'homme, et j'ai pu vraiment faire connaître la cause sahraoui durant tout le mois. Toute la presse internationale a parlé de mon cas, mais à travers moi, le cas de mon peuple.
Peut-être pour rappeler, à l'époque, vous étiez en voyage et quand vous avez voulu rentrer, le Maroc vous a empêché, vous a même expulsé donc vers les îles Canaries, qui sont toutes proches. Et pendant une trentaine de jours, vous avez été bloqué sur ce territoire qui est espagnol parce que vous aviez rempli un formulaire.
L'adresse, j'ai mis toute l'adresse avec la Youn Sahara occidentale. C'est pour cela que les autorités marocaines ont pris cette décision de me déporter et m'expulser vers les îles Canaries avec malheureusement une complicité absolue de la part du gouvernement espagnol. C'est pour cela que je viens de dire que j'ai voulu montrer aux puissances complices qu'on peut vraiment arriver et aboutir à notre objectif. J'ai refusé la nationalité espagnole, l'asile politique, toutes les offres espagnoles pour leur transmettre le message que je suis sahraoui, je veux vivre dans ma patrie, le Sahara occidental, et que la soumission n'est pas un choix pour moi.
Ça, c'était en 2009. En 2010, il y a eu cette grande mobilisation de Gdeimizik où des dizaines de milliers de Sahraouis sont venus installer des campements à quelques kilomètres de La Youn, la capitale du Sahara occidental, qui ont été évacués par la force, par le Maroc. Et de nombreux militants et meneurs de cette contestation pacifique, avec des revendications d'abord sociales, ont été emprisonnés, sont pour certains encore en prison et ont subi des traitements très très violents, contraires à tous les engagements du Maroc au niveau international, qui a signé des conventions contre la torture notamment.
Oui, cette protestation de Gdeimizik, c'est la plus grande protestation depuis l'invasion marocaine au Sahara occidental. C'est une protestation pacifique. À peu près 30 000 Sahraouis ont pris la décision d'installer un campement aux alentours de l'Aïoun pour exactement transmettre un message, surtout à l'Union européenne, qui continue le pillage illégal des ressources naturelles du Sahara occidental. Et ils ont vraiment montré au monde que durant tout le mois, la protestation était pacifique, sans violence. Et le 30e jour, le gouvernement marocain a décidé de faire l'assaut violent militaire contre le campement. Ils ont détenu des centaines de Sahraouis. Ils ont endommagé même les maisons parce qu'il y avait des manifestations. Et suite à ces manifestations, il y avait des maisons saccagées, les biens des Sahraouis endommagés, leurs voitures aussi cassées. Et après quelques mois, ils ont commencé à libérer la majorité et ils ont condamné avec de lourdes peines 24 malheureusement activistes parce que c'est une question de vengeance et ils ont fabriqué un procès verbal carrément falsifié et sur la base de ce procès verbal ils les ont condamnés avec, comme je viens de dire, de lourdes peines allant jusqu'à la peine à perpétuité.
Et leurs proches n'avaient pas la possibilité de leur rendre visite. Ils ont subi aussi des mauvais traitements. Ils ont beaucoup de même d'observateurs extérieurs, de défenseurs des droits de l'homme, d'ONG, de responsables politiques aussi qui étaient venus assister, ou même des avocats qui étaient venus assister au procès, ont dénoncé les conditions dans lesquelles ça s'est passé.
Oui, c'est vrai. Et même il y a aussi un cas que le comité contre la torture a laissé très clairement, c'est le cas de le défenseur Nama Asfari. Le comité contre la torture a confirmé qu'il a été maltraité et torturé. Et sa femme, la militante française Claude Mongin, n'a pas pu lui rendre visite. Il a été expulsé plusieurs fois de l'aéroport de Rabat. Et en parlant de l'expulsion des observateurs internationaux, on a compté plus que 400 observateurs internationaux qui ont été expulsés ou interdits ou non permis d'accéder au territoire occupé du Sahara occidental depuis 2014, durant les 5 ans, ou des centaines d'observateurs qui ont été expulsés.
Et selon vous, quel est l'intérêt du Maroc à rester au Sahara occidental depuis la marche verte organisée par Hassan II en 1975 jusqu'à aujourd'hui? Maintenant, c'est son fils, Mohamed VI, qui règne. Ce sont des intérêts économiques, le phosphate, la pêche, l'agriculture?
Exactement, ce sont les ressources naturelles. C'est ça l'intérêt du Maroc et l'intérêt aussi de quelques pays occidentaux et surtout européens. Et non pas l'amour envers le peuple sahraoui, l'attachement au peuple sahraoui.
Oui, vous avez dénoncé encore au mois d'octobre, suite à la nouvelle résolution du Conseil de sécurité, l'attitude de la France notamment et de l'Espagne, qui continue de signer des accords bilatéraux avec le Maroc, notamment sur la pêche. Or, les eaux les plus poissonneuses, ce sont celles qui sont au large du Sahara occidental.
Oui, malheureusement, sans l'encouragement et la coopération de l'Europe avec le Maroc ne peut pas oser piller les ressources naturelles du Sahara occidental. Il n'aura pas aussi l'opportunité de signer des accords tels l'accord de pêche ou les accords agricoles. C'est un mépris de droit international et pour nous, les Sahraouis, c'est un argument très fort, juridique, que nous allons utiliser pour dénoncer non pas le Maroc, mais aussi l'Europe. Le peuple sahraoui qui est souverain doit être le maître et le souverain de ses richesses.
L'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies, Omar Bilal, dit au contraire, non, c'est le Front Polisario qui commet des exactions dans les camps de Tindouf, notamment sur le territoire algérien. Et ils disent qu'ils recensent toutes les violations des droits de l'homme qu'ils dénoncent. Je vois que vous souriez quand vous entendez ça.
Ma réponse est que pourquoi le Maroc refuse que les Nations Unies incluent un mandat de surveillance des violations des droits de l'homme à la MINURSO, alors que le Polisario dit qu'ils sont d'accord.
Alors la MINURSO, peut-être pour préciser, c'est la mission des Nations Unies qui est en charge d'organiser le référendum d'autodétermination depuis 91 maintenant.
Pour la majorité des Sahraouis, la MINURSO n'a plus de sens.
Cette année, son mandat a été prolongé jusqu'en octobre 2020, pour la première fois, alors qu'il n'y avait plus d'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental suite à la démission de Horst Köhler au mois de mai. Par ailleurs, il s'est passé énormément de choses cette année. Il y a eu les élections en Algérie, le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a eu la Mauritanie qui a aussi élu un nouveau président. Il s'est passé beaucoup de choses, des contestations aussi au Maroc. Quel est l'avenir pour vous? Est-ce qu'il va y avoir une suite au pourparlers? Est-ce que vous êtes optimiste pour 2020 qui s'annonce?
Bon, moi, je suis toujours optimiste et c'est vrai que après la démission du président Horst Köhler, nous sommes tous, moi comme tous les Sahraouis, nous sommes frustrés parce que nous espérions beaucoup, mais aussi on comprend et malheureusement la résolution de cette année est vraiment, c'est un grand recul. Et ça pousse vraiment les jeunes de se fâcher et d'exercer plus de pression sur le Front Polisario pour qu'ils reprennent les armes. Et ça sera de leur nom, pas pour le peuple sahraoui tout seul, mais pour toute la région et peut-être pour aussi l'Europe.
Aminatou Haïda, merci beaucoup.
Merci à vous, madame.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Aminatou Haïdar et à la fondation Right Livelihood qui a permis cette rencontre. Pour podcaster Droits et Libertés, allez faire un petit tour sur notre site dw.com/français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne année à tous et d'ici là, ne lâchez rien. تقل تمر أميس السلام تقل تمر أميس السلام.